Nombre d'Iraniens se sont rassemblés en masse devant l'ambassade de France à Téhéran pour exprimer leur protestation contre la diffamation commise par Charlie Hebdo à l'encontre de Marjaïa et de Vilayat en Iran. Le Yémen dénonce le silence du monde face au génocide commis par l'Arabie saoudite et en France, le nombre de faillites d'entreprises a grimpé de plus de 48% en 2022. C'était les principaux titres, en voici le journal. Contestant la diffamation commise par le magazine Charlie Hebdo à l'encontre de Marjaïa et de Vilayat, les Iraniens se sont rassemblés en masse devant l'ambassade de France à Téhéran, dimanche 8 janvier. Les manifestants, dont pour certains des étudiants de l'école théologique, tenaient des pancartes avec le thème « Abba Israël, Abba l'Angleterre » et « Nous sacrifions nos vies si le leader en donne l'ordre ». Ils ont dénoncé la diffamation commise par le magazine sioniste français Charlie Hebdo contre le haut statut de Marjaïa et condamné le gouvernement français d'Emmanuel Macron pour soutenir les calomnies visant le Marjaïa et le Vilayat. Les manifestants ont également scandé Allah Akbar pour exprimer leur vive colère contre l'acte offensif du magazine satirique et les hostilités de Paris, mais aussi pour montrer qu'ils ne toléraient pas la moindre insulte à l'égard de Marjaïa, sorte d'imitation, qu'ils soutiennent de toutes leurs forces. L'hebdomadaire français Charlie Hebdo a consacré son dernier numéro spécial 7 janvier à l'Iran en y publiant des caricatures à caractère offensant du leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Y réagissant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déconseillé le gouvernement français de justifier cette action effrontée, écrivant dans un tweet « Vu son passé historique de colonialisme, de violation des droits de l'homme et de la liberté d'expression à l'intérieur et à l'extérieur du pays, la France n'a pas le droit de justifier l'insulte aux valeurs sacrées d'autres États et des adeptes des religions au nom de la liberté d'expression. Ce que les responsables politiques français doivent respecter, ce sont les principes évidents et fondamentaux des relations internationales, c'est-à-dire le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui et le respect des valeurs et des saintetés nationales et religieuses des autres États, a-t-il indiqué. Les ministres syriens et iraniens des Affaires étrangères se sont entretenus des relations bilatérales stratégiques et de la haute coordination entre les deux pays à différents niveaux dans l'intérêt des deux peuples syriens et iraniens. Les deux ministres, Faisal al-Mirdad et Hossein Amir Abdullahian, ont passé en revue les évolutions et les développements dans la région et dans le monde et échangé des idées sur un certain nombre de questions d'intérêt commun. Les deux ministres ont réaffirmé le soutien de leur pays à la juste lutte du peuple palestinien pour défendre ses droits historiques et ont fermement condamné les crimes commis par l'entité raciste sioniste contre les Palestiniens dans l'ensemble des territoires occupés. Le ministre al-Mirdad a salué le rôle important de l'Iran dans le soutien au peuple syrien et dans l'assistance à la Syrie grâce à son rôle efficace à différents niveaux, en particulier lors des réunions au format d'Astana, qui ont permis d'obtenir des résultats sur le terrain. M. al-Mirdad a renouvelé le soutien de la Syrie à l'Iran face aux tentatives de répression sur lui et à l'ingérence extérieure dans ses affaires intérieures en condamnant les positions des États-Unis et des pays occidentaux concernant le dossier nucléaire iranien, exprimant la confiance de la Syrie dans la sagesse et le courage de la République islamique d'Iran, de ses dirigeants, de son gouvernement et de son peuple pour faire face à ces conspirations. À son tour, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a renouvelé le soutien de l'Iran à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Syrie et a réaffirmé la poursuite du soutien que la Syrie reçoit de la République islamique d'Iran dans sa guerre contre le terrorisme et le souci de son pays de fournir toutes les formes de soutien à la Syrie face aux sanctions économiques coercitives imposées par l'Occident. M. Amir Abdullahian a souligné l'importance de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays sur diverses questions et dossiers, soulignant l'importance d'échanger des points de vue entre les parties concernées des deux pays sur divers développements et événements sur le plan régional et international. Le régime sioniste a suspendu dimanche 8 janvier le laissez-passer VIP du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, qui facilite les déplacements du ministre à l'intérieur et autour de la Cisjordanie occupée. Le régime a invalidé ce laissez-passer dimanche, au lendemain d'une même décision prise contre trois responsables du parti Fatah palestinien qui avaient rendu visite à un prisonnier palestinien récemment libéré après 4 décennies de détention dans les geôles israéliennes. Le laissez-passer facilite les déplacements des fonctionnaires dans et autour des territoires palestiniens occupés en 1948 et en Cisjordanie occupée en 1967. Elle leur permet de circuler entre la Cisjordanie et la Jordanie. Les forces israéliennes ont confisqué le laissez-passer de Riyad al-Maliki alors qu'il passait de la Jordanie à la Cisjordanie occupée, a indiqué son bureau. Le ministre poursuivra son travail et ses activités diplomatiques avec ou sans le laissez-passer, a dit Ahmed al-Dik, un assistant de Maliki. Dimanche, le nouveau ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a ordonné aux forces du régime sioniste de retirer les drapeaux palestiniens des espaces publics. Un plan vise à annuler les règlements qui permettent à tout député de rencontrer des combattants de la liberté palestinien incarcérés dans les prisons israéliennes. Ben-Gvir a publié une déclaration disant qu'il avait informé le président du Parlement, Amir Ohana, de son intention de revenir à un protocole plus ancien selon lequel un seul législateur de chaque faction serait autorisé à rendre visite aux prisonniers palestiniens à condition que les visites se déroulent sous stricte surveillance. Ben-Gvir lui-même a été condamné à plusieurs reprises pour avoir soutenu le terrorisme sioniste et pour incitation au racisme contre les Arabes et les non-juifs. La semaine dernière, Ben-Gvir a visité la prison de haute sécurité de Nafra, récemment rénovée, pour revoir les conditions d'emprisonnement des prisonniers politiques palestiniens et s'assurer que ces conditions ne s'amélioreront jamais. Ces mesures font partie d'une série de mesures que le soi-disant cabinet de sécurité du régime sioniste a prises depuis vendredi 30 décembre en réponse au vote de l'Assemblée générale des Nations unies visant à renvoyer l'occupation des territoires palestiniens par Tel Aviv à la Cour internationale de justice, CIJ. En France, le nombre de faillites d'entreprises a grimpé de plus de 48% en 2022. L'année 2023 s'annonce assez noire pour les entreprises françaises. Les défaillances ou défauts d'entreprises sont repartis brutalement à la hausse en 2022, au point que 41 000 sociétés ont été en situation de cessation de paiement. Les créations de sociétés sont notamment en très forte dynamique, mais l'explosion des coûts de l'énergie et la croissance en berne font craindre le pire. Les prévisions les plus noires anticipent plus de 60 000 entreprises en faillite. C'était le niveau observé lors de la crise financière de 2009 en France. Selon la dernière enquête de conjoncture de l'INSEE, qui a interrogé spécifiquement des entreprises industrielles, la baisse totale de leur production en lien direct avec la hausse des prix de l'énergie serait de l'ordre d'à peine 1,5%. Cependant, comme le rappelle la Tribune, 8% des entreprises dans le secteur de l'industrie et 3% dans celui des services indiquaient prévoir de réduire leur activité en raison de la flambée de leurs factures énergétiques. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Génocide au Yémen, Sanaa dénonce le mutisme international. Le ministère des Droits de l'Homme du Yémen a fermement condamné les atrocités saoudiennes contre les civils yéménites et les migrants africains dans les régions frontalières, appelant les organisations internationales de défense des droits de l'homme à mettre un terme au génocide saoudien. Le ministère yéménite s'est dit dimanche 8 janvier dans un communiqué choqué par le silence de la communauté internationale et des instances internationales dirigées par les Nations unies face aux crimes commis par le régime saoudien. Nous rappelons au monde, avec toutes ces instances humanitaires, que les victimes des attaques saoudiennes depuis le début de la trêve s'élèvent à 2258, dont 285 personnes ont été tuées sur les zones frontalières de Sada, et que le nombre de morts ne cesse de s'alourdir. Lit-on dans le communiqué diffusé par la chaîne de télévision yéménite Al-Masira. Le communiqué ajoute que des obus d'artillerie et des mitrailleuses visent des civils et des migrants, alors que les formes les plus graves de torture et d'abus sont pratiquées à leur encontre. Selon Al-Masira, au moins un civil a été tué et 11 autres ont été blessés lors des dernières attaques à l'artillerie contre les zones frontalières saoudo-yéménites. Le ministère yéménite des droits de l'homme a en outre appelé le monde épris de liberté et les organisations de défense des droits de l'homme à agir conformément à leurs principes humanitaires pour condamner ces crimes et leurs auteurs. Il a également renouvelé l'appel aux organes compétents et à toutes les organisations humanitaires et internationales pour ouvrir une enquête sur les crimes commis par l'Arabie saoudite sur les zones frontalières et le massacre et la torture de citoyens et de déplacés, compte tenu du nombre élevé de victimes et de la pénurie des fournitures médicales. Le mois dernier, un responsable du ministère de la Santé yéménite a déclaré que près de 3000 civils, dont des réfugiés africains, avaient été tués ou blessés en 2022, à la suite de tirs d'artillerie et de missiles des militaires saoudiens dans la province de Sada, située dans le nord-ouest du Yémen. Au moins 907 personnes ont été tuées ou blessées pendant la trêve négociée par l'ONU qui a duré 6 mois et a expiré le 2 octobre, selon le directeur de l'hôpital rural Razi. La situation dans les zones frontalières du Yémen est également tendue. Des affrontements sporadiques ont eu lieu dans les provinces de Hudaïda, Laïj et Taïz entre les forces Sana'a et des éléments affiliés à la coalition. L'Arabie saoudite a lancé une guerre dévastatrice contre le Yémen en mars 2015 en collaboration avec ses alliés arabes et avec le soutien militaire et logistique des États-Unis et d'autres États occidentaux dans le but de réinstaller le régime d'Abd Rabbou Mansour Hadi, stipendié à Riyad et d'en finir avec le mouvement de résistance Ansarallah qui gère les affaires de l'État en l'absence d'un gouvernement fonctionnel au Yémen. La guerre a tué des centaines de milliers de Yéménites et engendré la pire crise humanitaire au monde.